Le journal Pierre Pilet, bonjour Pierre.
Bonjour à tous. Cette mission comporte un risque, je ne peux pas en garantir l'issue. Joe Biden s'exprime une nouvelle fois sur les évacuations américaines en Afghanistan. Direction New York dans un instant et dans 20 minutes. Décryptage avec votre invitée Laetitia.
Oui, Sonia Ghezali, journaliste, reporter à Radio France Internationale. Elle vient tout juste de rentrer d'Afghanistan après avoir vécu la chute de Kaboul dimanche dernier et le retour des talibans au pouvoir. Le film des événements, être journaliste occidentale en Afghanistan, être femme, on lui posera toutes ces questions tout à l'heure, à 8h20 dans le grand entretien.
Les opposants au pass sanitaire et à la vaccination contre le Covid-19 de retour dans la rue aujourd'hui. Pendant ce temps, le déploiement de centres d'autotest, reportage dans le Morbihan. Delphine Bateau, Sandrine Rousseau, Jean-Marc Governatori, trois outsiders au micro hier aux journées d'été des écologistes et à l'approche de leur primaire. Enfin, nous partirons à la découverte du plus grand paquebot du monde. Première sortie du Wonder of the Seas hier à Saint-Nazaire.
France Inter.
Des milliers d'Afghans toujours coincés aux portes de l'aéroport de Kaboul. Derrière eux, les talibans, devant les soldats américains qui gardent l'enceinte. Les évacuations continuent, mais le chaos règne. Joe Biden sous le feu des critiques. Nouvelle prise de parole du président des États-Unis hier soir depuis la Maison-Blanche, Loïc Loury.
Plus de 13 000 personnes évacuées depuis le 14 août, affirme Joe Biden. Des Américains, mais aussi des Afghans munis d'un visa spécial. Le président, qui jugeait impossible mercredi de quitter l'Afghanistan sans une forme de chaos, vantait hier l'ampleur du pont aérien en cours. Il s'agit de l'une des évacuations aériennes les plus importantes, les plus difficiles de l'histoire et le seul pays au monde à pouvoir déployer autant de ressources. De l'autre côté du globe, avec ce degré de précision, ce sont les États-Unis d'Amérique. L'horizon pourtant est loin d'être dégagé. Des milliers d'Afghans, en particulier alliés de Washington, menacés par les talibans, ne peuvent pas accéder à l'aéroport. Le Pentagone, par ailleurs, ne connaît pas le nombre précis d'Américains toujours présents dans le pays. Ne vous y trompez pas, cette mission d'évacuation est dangereuse. Elle comporte des risques pour nos troupes et je ne peux pas en garantir l'issue finale, qu'il n'y aura pas de perte. Joe Biden assure malgré tout que la crédibilité américaine de mener à bien cette mission n'est pas remise en cause. Critiqué à l'étranger, en baisse dans les sondages, chez lui, le président reste fidèle à sa ligne. L'Afghanistan ne menaçait plus, dit-il, l'intérêt national des États-Unis. Il était donc temps de s'en aller après 20 ans de guerre. New York, Loïc Loury, France Inter.
Les États-Unis prévoient d'évacuer 30 000 personnes au total. En France, un quatrième avion militaire s'est posé hier soir à Paris avec une centaine d'exfiltrés de Kaboul. 99 Afghans à bord qui, une fois le pied posé à Roissy, peuvent, comme les Français rapatriés, rencontrer des experts à qui parler du traumatisme vécu. Parmi eux, le psychologue Fabrice Viel, coordinateur de la cellule d'urgence mise en place.
Pour l'instant, ce qu'on entend essentiellement, c'est beaucoup de culpabilité, de sentiment d'abandon, d'avoir laissé sur place leur famille, leurs proches, leurs collègues. Parfois, il y a beaucoup de familles qui arrivent, mais en étant séparées, avec des gens de la même cellule familiale qui sont restés sur place. Donc voilà, une forte culpabilité, beaucoup d'inquiétude pour ceux qui restent. Et puis, il y a aussi une partie de cette population-là qui a vécu des exactions, des passages à tabac, qui ont été pris sous des tirs d'armes à feu, et qui, elle, manifeste plutôt des états dissociatifs, une forme d'absence, de fonctionnement un petit peu automatique. Ils sont totalement perdus dans les événements qui se sont passés pour eux.
Fabrice Viel, psychologue à l'hôpital Avicenne à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. France Inter, 8h04. Plus de 7 personnes sur 10 ont désormais reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19. Et près de 41 millions ont leur schéma vaccinal complet, d'après Santé publique France. Si vous ne faites pas partie de cette deuxième catégorie, eh bien, vous pouvez vous rendre désormais dans des centres d'autotest pour avoir le pass sanitaire afin d'aller dans les lieux culturels et au restaurant, entre autres. Première ville à disposer de cette avancée, Josselin, dans le Morbihan, 45 km au nord de Vannes. Reportage Éric Bouvet.
Donc vous faites tout vous-même, hein, sinon nous n'avons pas le toucher. Donc là, c'est le contre-tige.
Ça prend quelques secondes. On attend. Le médecin valide auprès de la Sécu et délivre alors le précieux QR code. Baptiste, qui habite Josselin, il ne sera vacciné que dans 3 semaines après-ci.
Franchement, C'est une belle opportunité, ça évite de courir à droite et à gauche.
Et alors pour Jessie,
c'est royal.
Venu de Picardie en attente d'une deuxième dose.
Ça décale mon pass sanitaire et j'étais bloqué pour mes vacances.
Du coup, avec ces autotests,
ça sauve toutes les vacances.
Ça sauve aussi un peu les vacances des professionnels du tourisme, explique l'adjointe au maire Annick Cardon.
Il pouvait arriver que 5 personnes se présentent, par exemple, à l'entrée du château. Une seule n'ayant pas son pass sanitaire, les 4 autres faisaient demi-tour.
Alors avec le maire Nicolas Jagoudet, ils ont lancé ce centre d'autotests.
Il faut trouver le local, des bénévoles, des élus, et puis aussi les médecins disponibles.
Le local, c'est celui de la future médiathèque. Les bénévoles viennent de la réserve citoyenne. Les élus sont rentrés de vacances. Et le médecin, à la retraite, c'est Yves Lepoule.
Tous les actifs sont dans leur cabinet à leur consultation. Nous ne fonctionnons qu'avec les médecins retraités.
Des retraités précieux en cette période. Et pour ceux qui pensent que ce centre est une alternative à la vaccination...
90% des gens sont déjà en cours de vaccination. On a très très peu de personnes réfractaires au vaccin, en fait.
Et comme le vaccin, c'est gratuit.
Gratuit, sans rendez-vous, 7 jours sur 7 jusqu'au 19 septembre à Josselin, dans le Morbihan, donc. Sixième samedi consécutif de mobilisation. Aujourd'hui, des opposants au pass sanitaire et à la vaccination contre le Covid-19. Plus de 200 cortèges prévus, dont 4 à Paris.
Ultime journée d'été des écologistes, aujourd'hui à Poitiers.
Objectif présidentiel 2022, mais avant ça, primaire en vue pour les candidats. Dernier match hier entre les 3 outsiders en compétition, Laurence Perron.
Une candidature de l'amour, de la conscience et le retour d'une société potagère. L'écologiste centriste Jean-Marc Governatori est un peu l'ovni de cette primaire, il l'assume.
Tu dis que t'es là pour rassembler la gauche, malheureusement tu vas bloquer les gens qui sont écologistes de droite, ou les gens qui sont écologistes du centre, ou les gens qui sont écologistes de nulle part.
Delphine Batho lui succède, l'éphémère ministre de l'écologie de François Hollande invite son auditoire à s'interroger sur la croissance et le sens du PIB.
Franchir le Rubicon de la décroissance. Le PIB, en fait, aujourd'hui, c'est l'indicateur de la vitesse d'effondrement du climat, du vivant.
Véritable surprise, l'écoféministe Sandrine Rousseau. Elle déroule posée un programme écologiste et social radical qui passe par une réduction du temps de travail, un revenu d'existence des 18 ans, une harmonisation fiscale européenne et la lutte contre toutes les discriminations.
Alors, il paraîtrait que je n'ai pas la carrure. Alors, c'est vrai, je mesure 1m55, j'ai des cheveux gris, j'ai pleuré à la télévision et en plus, je suis une femme. Balance ton poids.
Elle sort de scène, portée par des fans galvanisés. Les soutiens des deux favoris, Jadot et Piolle, doivent le concéder. Elle a marqué des points.
5 candidats en tout pour la primaire des écologistes les week-ends des 16 et 28 septembre. Incendie fixé dans le Var selon la préfecture. Les pompiers sécurisent les lisières pour éviter toute reprise de feu. Plus de 8000 hectares ravagés depuis lundi. 2 morts, 26 blessés. Accès interdit à l'ensemble des massifs forestiers du département ce week-end.
C'était le spectacle à ne pas rater hier sur le port de Saint-Nazaire. La première sortie d'un nouveau géant des mers.
Le plus gros paquebot du monde même. Le Wonder of the Seas, traduction Merveille des mers, actuellement en construction dans les chantiers de l'Atlantique. Des centaines de spectateurs sur le port et la plage pour cette première sortie. Reportage à Gera Mohamed.
D'abord, il faut bien choisir sa place. Pour Timothée, venu spécialement de Nantes, ce sera au pied du phare du Vieux Môle.
Le plus près possible de l'eau, c'est le meilleur spot. C'est le bonheur.
Puis être prêt à dégainer son téléphone pour les photos, comme Louisette.
Pour envoyer aux copains et aux copines, ils l'ont en direct. Parce qu'autrement...
Ah, autrement, vous avez le gros appareil photo.
Oui, Nikon. Là, ça fait des plus belles photos, on fait des agrandissements après.
Et le spectacle peut enfin commencer. 362 mètres de long, 64 mètres de large et une capacité d'accueil de 6000 passagers. Le Wonder of the Seas ne laisse personne indifférent.
C'est assez impressionnant et ça donne des frissons.
Oh, c'est magnifique. C'est un très beau bateau. Hein. C'est un rêve.
Vous rêvez de quoi, de monter à bord ?
Ah oui, oui, de faire une croisière.
Et Christine, une touriste francilienne, a même déjà choisi sa cabine.
Oh bah moi, je la choisis en hauteur, avec une petite terrasse.
Alors que Christian, lui, n'est pas fan du tout.
Non, du tout, non. Les HLM qui circulent sur l'eau, ça me dérange un petit peu. C'est énorme. Ok, côté technique et tout, c'est impressionnant. Mais c'est une pollution infernale.
Ouais. Louisette, originaire de Saint-Nazaire, elle préfère retenir la prouesse technique.
Sur le coup, on est content de voir ça, parce qu'on parle de Saint-Nazaire.
Livraison, printemps 2022, un bateau du croisiériste américano-norvégien Royal Caribbean Cruise Line.
8h09, on passe au sport.
Histoire de sport aujourd'hui nous emmène en Suède. Bonjour Marine Klett.
Bonjour Pierre.
En direct avec nous dans le studio d'Inter pour nous parler d'un joueur de handball qui fait son retour après 2 ans d'absence.
C'est un premier entraînement symbolique. Louis Sand rechausse les baskets et s'enduit de nouveau les doigts de résine, la colle que l'on met pour mieux tenir le ballon. L'ailier a le sourire aux lèvres, les yeux qui scintillent et enfin la tête tranquille. Il y a 2 ans, en 2019, elle décide de s'éloigner des terrains de handball à seulement 26 ans. Elle, oui, parce qu'il y a 2 ans, Louis s'appelait encore Louise Sand. C'était une ailière gauche, l'une des meilleures au monde, sauf que le corps, aussi performant soit-il, ne soigne pas tous les maux. Et ce physique, Louise ne l'accepte pas. « Je suis née dans le mauvais corps », écrit le joueur sur les réseaux sociaux. Débute alors un long, un éprouvant parcours. Louise consulte des médecins et des psychologues. Elle prend des hormones, puis se décide à effectuer sa première opération chirurgicale, une mastectomie. Peu à peu, le corps de Louis prend vie. Il fait suivre sa transition sur les réseaux sociaux. Je me regarde en t-shirt et j'aime enfin ce que je vois dans le miroir.
Et pourtant, rien ne prédisposait Louis Sand à jouer en Suède.
Surtout pas sa petite ville de Modera, au Sri Lanka, qu'il a vu naître un 27 décembre 1992, là où il n'y a pas la moindre trace de handball. Naître fille à l'autre bout du monde et arriver aujourd'hui en deuxième division masculine suédoise, c'est peut-être ça le destin après tout. Rapidement, après avoir été adopté, Louis prend le ballon en main. Dès l'âge de 12 ans, il est champion du monde junior avec l'équipe de Suède. L'ailier est même passé par la France il y a quelques années, une saison à Brest, puis une saison à Fleury-Loiret, juste avant sa pause. Aujourd'hui, il est de retour à son premier club de Kara en Suède, celui qu'il a formé quand il était encore enfant. Si le club a l'accord de la Fédération suédoise de handball, Louis Sand disputera son premier match dans une équipe masculine le 9 septembre prochain. Qu'importe le résultat, parce que le vrai match, Louis l'a joué hors des terrains. Celui d'avoir le courage de se trouver et de s'accomplir, celui qui envoie valser les convenances et fait fi des carcans, et celui-là, c'est certain, il l'a remporté haut la main.
Merci Marine Klett, c'était Histoire de sport sur France Inter.
Et merci à vous Pierre Pilet, le temps pour aujourd'hui.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Et c'est avec Jean-Michel Golinski.
Le soleil va conserver la main aujourd'hui du sud de la Garonne à l'est du Rhône, avec ce matin des paquets plus gris vers le Languedoc-Roussillon et dans le sud-ouest. Plus haut, c'est-à-dire sur une large moitié nord du pays, la pluie refait son apparition ce matin par la pointe ouest. En journée, en gagnant vers les régions de l'est, cette perturbation va devenir orageuse. D'abord du centre au bassin parisien, puis en cours d'après-midi, soirée, du nord de la Seine à la Bourgogne-Franche-Comté. Avec sur ces régions de l'Est un risque d'orage plus fort avec de la grêle et des rafales. Cet après-midi, les températures vont afficher 21 à Brest et à Cherbourg, 22 à Rennes et Nantes, contre 30 à 32 des frontières de l'Est à la Méditerranée, en passant par 27 à Bordeaux et à Lille, 28 à Paris et 29 à Limoges.